Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'anniversaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, tué le 14 février 2005 avec 22 autres personnes dans un attentat à la camionnette piégée. Son fils Saad Hariri a commémoré dans le silence ce lundi dans le centre-ville de la capitale libanaise le 17e anniversaire de l'assassinat de son père. Cet attentat a été ressenti comme un choc par tous les Libanais, nous dira Maya Kadra, journaliste et enseignante. Beaucoup d'observateurs considèrent ce 17e anniversaire comme la véritable date de sa mort. Des mots de l'ancien ministre libanais Marwan Amadeh, 17 ans après l'assassinat de Rafik Hariri. Nous écouterons Marwan Amadeh. Une semaine après la mort de trois Palestiniens tués par des tirs de l'armée israélienne à Nablus, dans le nord de la Cisjordanie occupée, un jeune homme de 17 ans a été tué lors d'affrontements près de Jénine. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue dimanche, une manifestation pour protester contre une nouvelle décision controversée du président Saïed lui permettant d'étendre son pouvoir sur le système judiciaire. Le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray s'est ouvert ce lundi à Paris. Un procès près de 6 ans après l'assassinat du père Jacques Hamel à coups de couteau en pleine messe. L'opération Ingénieuse 2022, il s'agit de récompenser en France comme à l'étranger des actions pour encourager les jeunes filles à intégrer les écoles d'ingénieurs. Nous écouterons Philippe Dépincé, président de la commission formation et société de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. 14 février 2005, 14 février 2022, cela fait 17 ans, l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, un kamikaze à bord d'une camionnette chargée d'explosifs commettait un carnage à Beyrouth au passage du convoi blindé de l'ancien premier ministre. Il fera 23 morts, dont Rafik Hariri, et 226 blessés. 17 ans après, la situation économique et sociale au Liban est catastrophique. Son fils Saad Hariri est rentré ce dimanche à Beyrouth. Il a commémoré dans le silence ce lundi dans le centre-ville de la capitale libanaise, le 17e anniversaire de l'assassinat de son père. Un attentat qui a été ressenti comme un choc par tous les Libanais, comme le souligne Maya Kadra, journaliste et enseignante.
Dans l'histoire du Liban, c'est un traumatisme qui s'ajoute à beaucoup de traumatismes, que ce soit les traumatismes de guerre, les traumatismes aussi plus profonds de notre histoire libanaise qui a été traversée par des conflits, par des guerres, par des occupations, etc. Mais en fait, cet attentat contre l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, qui est une grande figure de vivre ensemble, d'entente nationale, une grande figure de la paix, de la reconstruction de Beyrouth aussi après la guerre, c'est tombé, la nouvelle elle est tombée comme un couperet pour les Libanais. C'était inattendu, mais en fait c'est advenu après des mois, voire des années de tensions au Liban depuis 2000. Et en fait il y a eu un événement majeur l'an 2000, c'était l'appel des évêques maronites pour mettre fin à l'occupation syrienne, lequel appel a mis en place comme un conseil de résistance qui se réunissait à Kornetcherwan, et Rafik Hariri a rejoint ce conseil-là ou ce comité de résistance à partir de 2004. Et il y a eu ce qu'on appelle aussi les rencontres du Bristol, l'hôtel Bristol, où toutes les figures souverainistes libanaises, Rafik Hariri, Walid Jumblat, des partis chrétiens aussi, que ça soit le CPL, les forces libanaises, d'autres branches aussi chrétiennes, des partis plus traditionnels ou même des familles féodales qui ont une certaine notoriété, il y a eu vraiment un front de résistance que Rafik Hariri a rallié. Et c'est ce qui a fâché les ennemis de Rafik Hariri, à savoir le régime syrien. Le régime syrien était très mécontent de ce qu'il a appelé un peu un revirement de situation, voire une trahison de la part de l'ancien premier ministre. Et je me souviens, j'étais à Beyrouth en 2005, j'étais au lycée, à quelques kilomètres de Beyrouth, et l'explosion s'est fait entendre jusqu'au mont Liban. Et c'était impressionnant, c'était un jour de grande peur. Et quand on a su que c'était Rafik Hariri, tout de suite, on a fait le lien. Tout de suite, même, j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, mais tout le monde a compris, en fait, que Rafik Hariri dérangeait, que Rafik Hariri, après avoir œuvré pour la paix au Liban après les années de guerre, il voulait œuvrer pour la souveraineté sans compromis cette fois-ci, et c'était un énorme choc. C'était un traumatisme et c'était aussi le déclencheur d'une grande unité nationale après la guerre civile libanaise. Évidemment qu'il y a eu les accords du Taif, donc désarmement des milices, qui n'a pas réussi à 100%, parce qu'il y a toujours des milices armées au Liban, et une instauration d'une certaine forme de paix sous la tutelle syrienne. Et après ces accords, le premier événement vraiment qui a formé une forme de séisme au Liban, c'était l'attentat contre Rafik Hariri.
Un attentat donc qui a soudé les Libanais et qui a abouti finalement au départ des troupes syriennes.
Exactement, au départ des troupes syriennes, après le 14 mars 2005. 14 mars, c'est une journée... une très grande journée nationale libanaise, c'est là où on a vu vraiment que les anciens belligérants et leurs sympathisants et les partisans de partis qui se faisaient la guerre ou bien de milices qui se faisaient la guerre entre 75 et 90, tous étaient à la place des martyrs, plus d'un million de Libanais. On parlait même de 1,5 million de Libanais ont rempli les rues de Beyrouth, ont rempli le centre-ville que Rafik Hariri avait reconstruit pour demander le retrait des troupes syriennes. Mais ça va au-delà, en fait, du retrait des troupes syriennes. Parce que ce qu'ils ne savaient pas en fomentant cet attentat meurtrier contre Rafik Hariri et barbare aussi, c'est que ils ont offert le plus grand cadeau au peuple libanais, dans le sens où ça a généré une vague d'unité nationale sans précédent au Liban. Il y avait les Druzes, les chrétiens, les musulmans, tout le monde était dans cette place, et je trouve en fait que c'était l'inauguration d'un nouveau chapitre dans l'inconscient collectif libanais, d'un chapitre en fait qui consolide cette idée que certaines personnes un peu blasées ou cyniques en politique raillent un peu, à savoir l'idée du vivre ensemble. Le vivre ensemble est possible.
Et c'est en raison de cette unité retrouvée après l'assassinat de Rafik Hariri que d'autres attentats ont eu lieu dans les mois et dans les années qui ont suivi.
Exactement, vous pouvez bien imaginer la colère du régime syrien en voyant que tous les Libanais étaient unis pour demander le retrait des troupes syriennes et pour demander un tribunal spécial pour le Liban pour enquêter sur l'attentat contre Rafik Hariri. Et pour décourager ces foules, et pour décourager aussi certains chefs de parti, certains politiques libanais, ils ont multiplié les attentats, non seulement contre des personnalités du 14 mars, mais des attentats aux voitures piégées, surtout dans plusieurs régions libanaises. Et c'était pour semer la zizanie, c'était pour semer la discorde entre les Libanais. Il y a eu des attentats dans des quartiers chrétiens, et le régime syrien, il voulait jouer à la propagande de la guerre intercommunautaire islamo-chrétienne, en fait. Parce qu'en posant une bombe dans un quartier chrétien, tout de suite, la propagande du régime, elle sous-entend que c'est des musulmans qui ont posé cette bombe, en fait. Et donc, c'est ce qu'ils font même en Syrie. Ils jouent toujours, ce régime a la stratégie du pompier pyromane. Mais toutes ces tentatives n'ont, à la fin, pas abouti, en fait, à dissoudre cette unité nationale. Parce que, justement, ça venait de l'extérieur, en fait. On identifiait notre ennemi. On savait que c'était un ennemi qui venait d'autres frontières, à savoir le régime syrien. Et donc, ça n'a pas affaibli le 14 mars. Quand est-ce que le 14 mars a été affaibli ? Le 14 mars a été affaibli en 2008, quand le Hezbollah, qui est une milice, mais qui est un parti aussi représenté au Parlement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'infiltre dans les institutions, ce parti, en 2008, a occupé les quartiers de Beyrouth, a tué des civils Beyrouthin. Il a été attaqué la montagne jusqu'à arriver au QG de Walid Jumblat, le chef druze. Et c'est ce qui a traumatisé et disloqué, je dirais, l'alliance du 14 mars, le fait que le danger ne vienne plus d'outre, uniquement ou exclusivement d'outre frontières, à savoir du régime syrien, mais de l'intérieur du pays. Et donc c'est un danger plus larvé, plus direct, et c'est ce qui a mené en fait aux différentes dislocations dans le camp du 14 mars, voire aux différentes trahisons à la mémoire de Rafik Hariri et au message que Rafik Hariri a porté pendant sa vie.
La journaliste et enseignante Maya Kadra, elle répondait à Loïc Barrière. Beaucoup d'observateurs considèrent ce 17e anniversaire comme la véritable date de la mort de Rafik Hariri, comme nous le dit l'ancien ministre libanais Marwan Amadé.
Avec ce qui se passe au Liban, beaucoup d'observateurs, et parmi eux bien sûr les supporters ou les anciens fans de Rafik Hariri, ceux qui ont vécu avec lui les années de prospérité et de reconstruction, considèrent ce 17e anniversaire comme la véritable date de sa mort, en disant « Hariri est mort aujourd'hui ». Il est mort aujourd'hui parce que la vindicte dont fait l'objet, au fond l'objet, toutes ses réalisations depuis le centre de Beyrouth jusqu'à l'électricité, l'eau, l'aéroport, toutes les réalisations qu'il avait effectuées, qui sont l'objet maintenant et la cible de tous ceux qui veulent détruire non seulement l'ère Hariri, mais également et surtout le Liban de 1920, le Liban, le grand Liban démocratique et convivial et lié à l'Occident et aux Arabes par des relations cordiales et ouvertes à une indépendance sans embâge, avec bien sûr également une économie libérale où les services à tout vent, qui était le tourisme, le secteur bancaire, les assurances, le commerce, le fait que Beyrouth était la capitale, le Liban était la capitale de l'éducation, de l'université et des hôpitaux du Proche-Orient, eh bien tout ceci est en train de sombrer, et c'est comme si on enterrait une nouvelle fois Rafik Hariri.
L'ancien ministre libanais Marwan Amadé. Une semaine après la mort de trois Palestiniens tués par des tirs de l'armée israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, un jeune homme de 17 ans a été tué lors d'affrontements près de Jenin. Le ministère palestinien de la Santé précise que 10 autres personnes ont été blessées. Des heurts ont opposé hier des manifestants palestiniens à la police israélienne. C'est arrivé dans le quartier de Sheikh Jarrah, Jérusalem-Est, après la visite d'un député d'extrême droite israélien. 31 Palestiniens ont été blessés, dont plusieurs hospitalisés. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue ce dimanche à Tunis pour protester contre une nouvelle décision controversée du président Kais Saied. Le chef de l'État s'est donné le pouvoir de limoger des juges et de leur interdire de faire la grève. Il a remplacé le Conseil supérieur de la magistrature dissous il y a une semaine par un autre organe temporaire. Les manifestants ont exprimé leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire en Tunisie. Le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray s'est ouvert ce lundi à Paris, un procès près de 6 ans après l'assassinat du père Jacques Hamel à coups de couteau en pleine messe. Un procès en présence de 3 membres de l'entourage des assaillants et un absent, l'instigateur présumé Rachid Kassim. Les 2 terroristes, Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean, qui se réclamaient du groupe État islamique, ont eux été tués par la police à la sortie de la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016. La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs lance l'opération Ingénieuse 2022. Objectif, récompenser en France comme à l'étranger des actions pour encourager les jeunes filles à intégrer ces écoles. Entretien avec Philippe Dépincé, président de la commission formation et société de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.
C'est l'opération Ingénieuse Longla 2022. Alors l'opération Ingénieuse, c'est la 12e année que l'ACDFI, donc la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, lance cette opération. Donc elle a été créée dans l'objectif de promouvoir l'égalité entre les genres dans les sciences et la technologie, et bien évidemment d'inciter les jeunes filles à poursuivre des études et des carrières d'ingénieurs. Globalement, ce qu'on constate, c'est que on a un manque de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, et donc on considère, et moi, en tant que directeur d'école, bien évidemment, je partage cet avis-là, c'est qu'il faudrait que dans nos écoles d'ingénieurs, on ait globalement la même proportion de femmes que d'hommes.
Et donc, vous constatez sur le terrain qu'il n'y a pas assez de candidatures.
Au niveau de la CDFI, on représente l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est pas seulement que Parcoursup, hein, on a des écoles qui vont recruter post-bac, on a des écoles qui vont recruter post-CPGE, hein, classe préparatoire aux grandes écoles, on va avoir des écoles qui vont recruter après un premier cycle, hein, soit une licence, soit un DUT ou maintenant un BUT, et des écoles qui vont recruter sur l'ensemble de ce panel. Donc, ce que l'on constate, c'est que si on a une quasi-égalité, on a une bonne proportion de femmes, il faut de jeunes filles dans les études scientifiques. Alors là, avant, lorsqu'on parlait du bac S, elles sont bien moins nombreuses dans les écoles d'ingénieurs ensuite. Globalement, on stagne à 27-28% en moyenne, bien évidemment, de jeunes femmes dans les études d'ingénieurs.
Et comment l'expliquez-vous ?
Une autocensure des jeunes femmes vers les métiers d'ingénierie ou vers les études plus scientifiques et techniques.
Philippe Dépincé, président de la commission formation et société de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h23, et Prisca Thévenot, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de La République En Marche, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.